Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de la présidentielle au Burkina Faso. Le scrutin est prévu dans 4 mois, les différents partis politiques sont déjà en ordre de bataille. C'est le cas du MPP, le parti présidentiel qui vient d'investir Roch-Marc Christian Kabogré pour briguer un nouveau mandat. La cérémonie d'investiture a été l'occasion évidemment de dresser un bilan du quinquennat. Un bilan très positif, a déclaré ce matin sur RFI le premier vice président du MPP, alors que cela fait tout de même 5 ans que la situation sécuritaire se dégrade du fait des attaques djihadistes quasi quotidiennes. En tout cas, le parti présidentiel s'est fixé l'objectif de faire réélire Roch-Marc Christian Kabogré dès le premier tour. Alors, est-ce réaliste? On en parle tout à l'heure. Vous nous appelez d'ici là, 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à commenter cette actualité sur nos réseaux sociaux, la page Facebook et le compte WhatsApp. Et comme tous les matins, je lirai quelques commentaires pour alimenter la réflexion. D'abord, vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Bonjour Maki.
Bonjour à tous.
Bienvenue, vous êtes en Guinée, vous êtes dans la capitale, à Conakry, et vous avez des questions sur le mode de propagation du Covid-19.
En effet, Juan, en effet. Donc, dans une lettre ouverte, 239 chercheurs ont prévenu l'OMS que le Covid-19 se transmettrait par voie aérienne. Alors, que disent ces chercheurs-là sur la transmission de ce virus par l'air, Juan ?
Alors, bonne question. Et c'est une question que tout le monde se pose depuis le début de la pandémie. Le coronavirus peut-il se transmettre par l'air ? Karine Lacombe, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. 200 chercheurs de 32 pays qui appellent à prendre très au sérieux la possibilité d'une propagation aéroportée du Covid-19. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion ?
Eh bien, en fait, c'est par des analyses, des expériences qui ont été faites en laboratoire, où on a pu montrer que dans des endroits clos, où il n'y avait pas de vent, il était possible de voir en suspension des gouttelettes très fines, des micro-gouttelettes qui pouvaient contenir du virus. Donc effectivement, dans des conditions particulières, qui sont des endroits clos, sans brassage de l'air, il peut persister du virus dans l'air, donc avec une transmission qui peut être aéroportée.
Pourtant, excusez-moi, au début de la pandémie, j'ai le souvenir que la communauté scientifique nous disait que, oui, le virus était présent dans de grosses gouttelettes que nous formons lorsque nous parlons, lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue, mais que ces gouttelettes étant plus lourdes que l'air, elles retombaient forcément par terre. Et c'est pour ça qu'on nous demande d'être à 1, voire 2 mètres de la personne la plus proche de nous.
Alors, oui, votre remarque appelle deux réflexions. La première, c'est que les connaissances évoluent avec le temps. Donc, ce qui pouvait être vrai un jour peut être sensiblement différent le lendemain. Mais ceci dit, il n'y a aucune nouvelles données qui diraient que le virus est essentiellement transmis par l'air. On reste tout de même par une transmission essentielle par les grosses gouttelettes, donc par la projection quand on parle ou quand on éternue, et un petit contingent de virus peut se transmettre par l'air, de nouveau quand on est dans un milieu très confiné, sans brassage de l'air. Et c'est la raison pour laquelle le taux de transmission d'une personne infectée aux autres personnes n'est pas supérieur à 3. Par exemple, avec la rougeole, ce taux est supérieur à 10, parce que toute la transmission du virus de la rougeole se fait par l'air. Pour le SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19, ce coronavirus se transmet principalement par les grosses gouttelettes et un petit contingent par l'air dans un milieu fermé, donc dans un milieu clos, où il n'y a pas le brassage de l'air. C'est pour ça que l'on recommande dans les milieux clos de porter le masque.
Porter le masque. Alors justement, alors Maki a d'autres questions à vous poser. Maki.
Oui, Juan. Alors, comment réagit l'OMS face à cette nouvelle donne et qu'est-ce que cela implique pour ces recommandations ?
Alors, recommandations, vous en parliez un instant, Karine Lacombe, porter des masques dans un lieu fermé, dans un lieu clos. L'OMS reconnaît effectivement qu'il y a des preuves aujourd'hui de la transmission du coronavirus par l'air.
Absolument. Et c'est bien pour ça qu'il est recommandé dans les lieux clos de porter un masque, que ce soit évidemment pour éviter de transmettre, mais également pour éviter soi-même de se contaminer.
Et dans les lieux clos aussi, d'ouvrir les fenêtres, nous dit-on de plus en plus.
Absolument. Très important d'aérer. Alors nous, c'est ce que l'on faisait déjà à l'hôpital de façon régulière dans les services où on avait des personnes infectées qui étaient hospitalisées. Donc l'ouverture des fenêtres est très importante. Une aération, on dit, diminue toutes les heures des lieux clos dans lesquels se réunissent des personnes qui doivent porter le masque.
Maki, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, c'était parfait, Juan.
Eh bien, on remercie Karine Lacombe, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On continue à parler de cette pandémie du Covid-19 après la décision de Donald Trump. Delphin, bonjour.
Oui.
Allô, Delphin, bonjour.
Allô.
Oui, soyez le bienvenu. Vous êtes à Abomey, quel avis au Bénin?
Exactement.
Nous vous
Bonjour
écoutons.
Tout le monde. Donald Trump avait annoncé en mai qu'il souhaitait que les États-Unis quittent l'OMS. L'organisation a été officiellement notifiée de cette décision mardi. Qu'est-ce que ce départ change concrètement pour l'organisation ?
Ah, c'est vrai que Donald Trump a officiellement lancé la procédure de retrait des États-Unis de l'OMS, et ce, en pleine crise sanitaire de Covid-19. Oriane Guilbeault, bonjour.
Bonjour.
Maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 8, spécialiste des organisations internationales et des politiques de santé mondiales. Cela fait des mois que Donald Trump accuse l'OMS d'avoir sciemment caché l'ampleur de l'épidémie de Covid-19 et d'avoir été même instrumentalisé par la Chine. Les États-Unis ont donc claqué la porte de l'organisation. C'est un coup dur pour l'OMS ?
Oh bah oui, c'est un coup dur. Donc là, c'est un feuilleton qui dure maintenant depuis plusieurs mois. Et qui, là, voilà, on a franchi une nouvelle étape. Il faut savoir que maintenant que le retrait a été notifié à l'OMS, le processus peut prendre jusqu'à un an pour que les États-Unis se retirent officiellement. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour l'organisation ? Bah, la première chose, c'est que les États-Unis, quand ils ne sont plus membres, ils vont plus participer aux instances de gouvernance de l'organisation, donc à l'Assemblée mondiale de la santé, notamment. Donc, ils vont plus voter, en fait, et participer à l'élaboration des politiques de l'organisation. Ça veut dire aussi qu'ils vont plus financer l'organisation. Donc, les États-Unis, c'était le premier donateur, contributeur financier de l'OMS, avec à hauteur à peu près de 15% du budget.
15% du budget pour que les auditeurs aient bien une notion monétaire en tête, ça représentait tout de même 893 millions de dollars pour la période 2018-2019.
Voilà, sur les 2 ans sur lesquels l'OMS fait son budget. Donc c'est un vrai coup dur, parce que ça veut dire que notamment les programmes qui sont financés par de l'argent venant des États-Unis vont devoir subir soit un arrêt, soit une réorganisation, et puis que pour l'OMS, il va falloir aussi trouver de l'argent ailleurs si elle veut continuer à mettre en place ces programmes.
Ouais, certains États ont tout de même annoncé qu'ils allaient compenser le manque à gagner en contribuant un peu plus. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Ouganda par exemple. La Chine s'est même engagée à apporter 30 millions de dollars supplémentaires.
Oui, donc ça, au niveau du financement, il y a d'autres États qui peuvent s'engager. Donc ça va prendre du temps et ça va désorganiser les programmes. Mais au niveau des conséquences pour l'organisation, au-delà du financement, il y a un manque d'expertise, en fait, parce que les États-Unis participent, ont du personnel présent à l'organisation, à l'OMS. Ils contribuent à des comités d'experts ou à tout un tas de comités de l'OMS qui vont établir des normes, des recommandations. Et là, avec la fin des relations avec les États-Unis, là, il va y avoir un manque d'expertise et un manque d'échange d'informations également entre les États-Unis et l'OMS. Par exemple, les États-Unis, parce qu'ils sont membres de l'OMS, sont membres d'un certain nombre de réseaux de surveillance des épidémies, par exemple comme celui de la grippe. Et si les États-Unis ne sont plus partis à l'organisation, ça veut dire qu'ils ne font plus partie non plus officiellement de ces réseaux. Et donc, il y a un manque d'échange d'informations, d'expertise qui vraiment va déstabiliser le travail de l'organisation et va avoir des conséquences faites pour le monde, mais aussi pour les États-Unis, parce que les États-Unis ont aussi besoin des informations en fait qui circulent et de l'expertise qui circule dans le monde par l'intermédiaire de l'OMS.
En tout cas, Joe Biden, le candidat démocrate, a annoncé qu'il reviendrait immédiatement sur cette décision s'il était élu en novembre prochain. Delphine, a-t-on répondu à votre question ?
Parfaitement clair.
Eh bien, un grand merci à Oriane Guilbault, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université. Paris 8, 10h20 à Paris. Appelez-nous. Vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat sur la présidentielle au Burkina Faso. Nous sommes certes à 4 mois du scrutin, mais tous les partis y pensent. La preuve, le parti présidentiel a investi samedi. Le président sortant, il sera le candidat du MPP. Peut-il remporter un second mandat et peut-il surtout remporter la présidentielle dès le premier tour ? C'est notre débat du jour. En tout cas, au MPP, on en est convaincu. Le MPP affirme même pouvoir remporter le scrutin dès le premier tour avec 60% des voix. Est-ce réaliste ? On en parle évidemment tous ensemble dans 20 minutes. Alexandra Banjon du service Afrique de RFI nous rejoint. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Des questions nous sont posées par Innocent. Il est au Cameroun. Bonjour Innocent.
Oui, bonjour, Wam.
Bienvenue, merci de nous écouter à Yaoundé. Nous vous écoutons.
Voilà. Des centaines d'éléphants mais dans des circonstances mystérieuses au parc national de Botswana. Alors, Wam, j'aimerais savoir quelles sont les pistes étudiées par le CSR pour comprendre les causes de cette hécatombe sans précédent.
Oui, hécatombe sans précédent. Au moins 275 éléphants morts ces dernières semaines dans des circonstances pour le moins mystérieuses au nord du Botswana. Alexandra Branjon, la semaine dernière, la direction des parcs nationaux et de la faune du Botswana a tiré l'alarme après avoir retrouvé donc toutes ces carcasses dans le nord du pays. Des décès inexpliqués, d'autant plus que le directeur des parcs affirme qu'il ne s'agit pas de braconnage.
Oui, il s'agit de décès qui sont jugés mystérieux. Alors d'abord, parce un nombre important de cadavres ont été retrouvés dans un espace limité du parc, que ces animaux avaient été tous de tout âge, donc ce qui limite l'hypothèse d'un décès naturel. Ensuite, les animaux avaient encore leur défense, donc a priori il ne s'agit pas de braconnage. Alors les conservateurs écartent également la thèse de la maladie. Quand un animal est malade, disent-ils, ben ça se voit, il est faible, il maigrit, il présente des signes de maladie. Or, dans ce cas précis, selon ces conservateurs qui travaillent sur le terrain, il s'agissait d'éléphants en forme qui brusquement s'effondraient et mouraient. Ils disent avoir retrouvé de nombreux pachydermes couchés sur le torse, comme s'ils étaient tombés en avant alors qu'ils étaient en train de marcher et qu'ils étaient morts brusquement. Alors, ces conservateurs ont également remarqué que certains éléphants dans cette zone avaient un comportement bizarre. Ils ne marchaient pas correctement, ils tournaient en rond, ils semblaient désorientés et avoir du mal à utiliser leurs membres arrière. Donc, pour plusieurs conservateurs à qui j'ai parlé, ça ressemble fortement à un poison qui toucherait le système nerveux de ces pachydermes. Et plusieurs de ces conservateurs donc soutiennent la thèse de l'empoisonnement.
Ouais, et c'est là où ça devient un sujet sensible. Qui pourrait bien empoisonner ces animaux, ces éléphants ?
Oui, c'est la question. Le Botswana abrite environ 130 000 éléphants en liberté, soit un tiers de la population du continent. Et la coexistence entre ces pachydermes et la population locale n'est pas toujours pacifique. Hein. Les villageois accusent régulièrement les éléphants de détruire leur culture. Les autorités, elles, affirment que ces animaux sont en surnombre dans le pays et plaident pour un contrôle de leur nombre. Alors, sous la présidence de l'ex-chef d'État, Yann Kama, la chasse aux éléphants était interdite. Son successeur, qui a été élu il y a 2 ans, a lui changé de politique, a rétabli en début d'année le droit de chasser les éléphants avec un permis pour un nombre limité. Sauf qu'avec l'épidémie de coronavirus, il n'y a quasiment pas eu de tourisme ces derniers mois, y compris de tourisme de chasse. Donc pour en revenir à l'hypothèse d'un empoisonnement, certains conservateurs à qui j'ai parlé avancent la possibilité d'un empoisonnement perpétré par les communautés locales, voire même par les autorités locales, avec évidemment pour but de réduire le nombre d'éléphants dans leur zone, autour de leur village.
Ouais, justement, Innocent, vous avez une autre question ?
Oui, effectivement, mais j'ai ma deuxième question encore à poser, Juan.
Allez-y, oui.
Quel sera l'impact de cette perte pour l'espèce en général ?
L'espèce en général. Vous le disiez, le Botswana abrite environ 130 000 éléphants en liberté. Ça représente un tiers de la population
totale
sur le continent africain.
Alors, l'impact de cette perte, bah écoutez, ça dépend de à qui vous parlez. Le gouvernement du Botswana donc affirme qu'il y a trop d'éléphants, qu'il faut contrôler la population. C'est le cas également du pays voisin, le Zimbabwe, qui se plaint d'avoir également trop d'éléphants. Et comme ces animaux sont concentrés dans certaines zones du pays, eh ben ça crée des conflits avec les populations. On l'a vu ces dernières années au Zimbabwe, il y a eu plusieurs cas d'empoisonnement d'éléphants au cyanure. Jamais un nombre aussi important que celui qu'on a eu récemment au Botswana. Le Zimbabwe a également exporté certains de ses éléphants, notamment des bébés, vers la Chine, en argumentant qu'à chaque fois qu'il y a trop d'éléphants et que les revenus de cette vente leur permettaient de financer les travaux de conservation et l'entretien du parc. Donc Botswana, Zimbabwe, ce sont les deux pays qui ont le plus d'éléphants sur tout le continent, avec respectivement environ 130 000 et 85 000 animaux. Ensuite, il y a la Tanzanie, l'Afrique du Sud, avec 25 000. Donc tous ces pachydermes sont concentrés principalement en Afrique australe et un peu à l'est. Si vous prenez l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, il n'en reste plus beaucoup. Un pays comme le Gabon, par exemple, a perdu 80% de sa population d'éléphants sur ces 10 dernières années, principalement à cause du braconnage. Il en resterait quelques milliers. Côte d'Ivoire, la population est estimée à quelques centaines, 200, 300. Autant dire que l'espèce a quasiment disparu. Donc, 400 000 éléphants sur tout le continent, au final, ça n'est pas beaucoup. Et c'est ce qu'argumentent les conservateurs. Il faut protéger l'espèce dans ces pays d'Afrique australe.
Merci infiniment d'être venu dans ce studio. Je recherchais le prénom de notre auditeur. Alexandra, bonjour, merci. Innocent, bonne journée à Yaoundé.
Merci beaucoup, merci Juan.
Allez, bonne journée. On remercie surtout Alexandra qui est venue dans ce studio vous répondre. Il nous reste 3 minutes. On va s'intéresser au calendrier électoral au Burkina Faso. Yacouba, bonjour.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio du monde.
Nous vous écoutons, Yacouba. Vous êtes à Ouagadougou.
Oui, la semaine passée, l'Assemblée nationale burkinabé a proposé de reporter d'un an les élections législatives qui étaient prévues le 22 novembre, en même temps que la présidentielle, pour des raisons de sécurité. Alors, pourquoi demander le report des élections législatives et pas celui de la présidentielle?
Oui, c'est une très bonne question, d'autant que les deux scrutins sont censés se dérouler le même jour, avec les mêmes électeurs. Yaya Boudani, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Yacouba.
Correspondant de RFI à Ouagadougou, expliquez-nous pourquoi les députés à l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité un report des élections législatives.
Alors, bon, selon les députés, ces élections législatives, pour ces législatives, la circonscription électorale, c'est la province, ce qui voudrait dire qu'on doit élire des gens qui vont représenter leur province. Ce qui implique que ces futurs candidats doivent se rendre sur place pendant la campagne pour rencontrer des probables électeurs. Alors, dans le contexte actuel, 5 régions au sud des 13 que compte le pays sont soumises à des attaques terroristes, djihadistes. Donc, selon les députés, étant donné que ces populations ont fui plusieurs communes et qu'il serait difficile, voire impossible pour des candidats de se rendre sur place dans ces provinces-là, il faut reporter ces élections. Donc, dans le contexte actuel, l'élection risquerait d'exclure beaucoup de citoyens. Et il y a un risque aussi d'avoir une assemblée qui ne serait pas représentative de la réalité.
Oui, une assemblée qui serait finalement incomplète. Faut quand même préciser aux auditeurs, Yaya Boudani, que sur le plan juridique, la Constitution permet un report des législatives.
Oui, l'article 81 de la Constitution dispose qu'en cas de force majeure ou de nécessité constatée par l'Assemblée nationale, la législature peut être prorogée jusqu'à la validation du mandat des députés de la nouvelle législature. Mais cela ne saurait dépasser un an. Or, il n'existe pas cette possibilité pour la présidentielle. Mmh. Alors, donc, si jamais le mandat du président s'achève et qu'il n'y a pas d'élection, cela ouvrira une transition. Et pour le président de l'Assemblée nationale, il faut tout faire pour éviter cela. Donc, l'Assemblée suggère qu'on reporte, les députés plutôt suggèrent qu'on reporte cette élection législative-là oui. pour un an. Mais
bon, pour l'instant, savez... visiblement, aucun parti politique, y compris le parti présidentiel, soutient cette idée. D'ailleurs, on a entendu ce matin Clément Sawadogo, le premier vice-président du parti présidentiel, qui laissait entendre qu'on se dirigeait vers un abandon du projet, vers donc une élection couplée. On va en parler juste après le journal avec les auditeurs de RFI, puisqu'on s'intéressera d'ores et déjà à ce scrutin présidentiel prévu en novembre prochain. Merci Yaya Boudani, bonne journée Yacouba, restez avec nous. On va retrouver dans un instant l'ensemble du service Afrique de RFI.